Il fut l'évangélisateur de notre région et le premier évêque de Châlons au 4e siècle. Je suis donc bien humblement son successeur dans la longue chaîne de la tradition apostolique. Bien entendu, les sources historiques ne sont pas sûrement établies, mais cette tradition est aussi le culte déjà bien développé ici au 6e siècle, nous donne un fondement solide pour célébrer aujourd'hui cette solennité. Sa réputation de sainteté et son rayonnement sont des signes donnés à notre génération aujourd'hui. Toute l'église de Châlons est là avec nous, même si les mangeots et les mangeottes ont le privilège de veiller sur ce tombeau majestueux dans le cœur de l'Église. C'est une tradition ancienne, elle aussi, que de bâtir les autels et les églises sur les tombeaux des martyrs ou des fondateurs, ou à l'inverse, selon les aléas de l'histoire, de disposer, d'installer un tombeau dans une église nouvellement construite. Comme à Rome autour du tombeau de l'apôtre Saint-Pierre, comme à Compostelle autour du tombeau de Saint-Jacques, ou à Tréguier, tombeau de Saint-Yves, ou à Saint-Maximin autour du tombeau de Sainte-Marie-Madeleine, nous vénérons ici les reliques de Saint-Rémy comme une source missionnaire, une fontaine de vitalité chrétienne auprès de laquelle il est bon de s'arrêter pour nous abreuver. Saint-Rémy apporta l'Évangile au cœur d'un monde complètement païen. L'un des signes qui établit sa réputation de missionnaire fut la résurrection du fils du gouverneur romain local qui s'était noyé dans le Nord. Comme je disais hier, je ne sais pas s'il y avait autant d'eau aujourd'hui, se noyer dans le Nord. Au nom du Seigneur, et comme Jésus dans l'Évangile, d'ailleurs, le paralysé, l'aveuglé, la femme adultère, Lazare pourrait en témoigner aujourd'hui s'ils étaient là avec nous. Comme Jésus dans l'Évangile, Saint-Rémy a remis debout cet homme. Il lui a rendu la vie. Les textes entendus ce jour nous poussent à regarder la figure du bon pasteur, dont Saint-Rémy a été une image. Ses 104 successeurs ont essayé, et le 105e que je suis essaie chaque jour, d'en être aussi une image vivante pour le bien de tous et pour la fécondité de la mission diocésaine. L'évêque le fait avec ses premiers collaborateurs dans l'exercice du ministère qu'ils ont reçu par l'ordination. Alors, tout en priant pour celui qui est votre évêque aujourd'hui, bien humblement, notre serviteur, chacun pourra se laisser renouveler par le ministère rendu possible par le ministère pastoral de l'évêque et des prêtres. Dans la relation du pasteur et des brebis du troupeau dont il a la charge, il y a tout d'abord la connaissance mutuelle. Vous avez remarqué peut-être comment un éleveur de moutons, un berger, les enfants ont peut-être vu ça un jour pendant les vacances, comment un éleveur de moutons connaît ses brebis une à une. Moi, je ne vois qu'un troupeau et plein de moutons tous identiques. Mais lui, il les voit chacune, il les distingue, il les connaît. C'est ainsi que le Seigneur nous connaît et que se nourrit cette relation d'amour entre lui et chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas simplement un troupeau, nous sommes chacun une des brebis du troupeau, un enfant bien-aimé du Père. On rappelle souvent que le Seigneur nous connaît par notre nom. Les prophètes et saint Paul d'ailleurs ont dit que Dieu les connaissait dès le ventre de leur mère. Et de même, il existe une relation de fraternité entre le pasteur et les membres de l'Église. L'évêque n'est pas un PDG qui dirige ou un général qui commande. Il est un père qui guide et qui conduit. J'essaie moi-même de vous connaître, de retenir vos prénoms, vos noms. C'est un nom quand même depuis presque 8 ans, ça commence à rentrer dans la mémoire, afin de vous porter dans ma prière, engagé dans le service que vous rendez. Cette relation de connaissance, elle est au cœur des textes bibliques. Elle est au cœur de notre vie ecclésiale aujourd'hui. Le synode qui se poursuit à Rome évoque justement cette fraternité, ce dialogue constant, cette écoute mutuelle qui doivent être vécues. Le synode n'a pas pour objectif de faire la révolution qu'on en raconte dans les journaux, mais seulement la révolution de la charité fraternelle, pour que tous et chacun participent vraiment à la vie de l'Église, pour que les brebis ne soient pas des brebis mêlantes qui suivent au coup de sifflet, mais des membres à part entière qui s'engagent dans la mission de l'Église. L'Église n'est pas une entreprise dirigée par le clergé avec les laïcs pour clients. C'est notre famille à tous. Et tous, nous avons reçu l'onction baptismale qui fait de nous les membres de ce corps. Un deuxième point que nous pouvons relever aussi dans cette relation du bon pasteur avec ses brebis, nous l'avons entendu dans le livre du prophète Ézéchiel, mais aussi dans la page de l'Évangile selon saint Jean que je viens de chanter, le bon pasteur est celui qui sauve la brebis perdue. Et il la conduit jusque dans les vers maturants, nous l'avons chanté dans le psaume 22. Le bon pasteur, le vrai berger, s'occupe des brebis. Il veille sur elles, il les rassemble, il les fait paître, il panse leurs blessures, il leur rend des forces, il les garde. Tous ces verbes nous disent quelque chose de la mission de l'évêque. À la suite de Saint-Mémy et de tous les autres prédécesseurs, je suis là pour rassembler, pour soigner, pour faire vivre, pour remettre debout, pour accompagner. Et dans l'Évangile, à chaque page, nous savons bien, nous voyons Jésus qui guérit, qui relève, qui pardonne les péchés, qui envoie. C'est bien le cœur du message chrétien auquel nous sommes si attachés. Par son sacrifice sur la croix, Jésus est le grand prêtre éternel qui nous offre le pardon des péchés, la victoire sur toute souffrance et sur la mort. Les puissances du mal sont terrassées par la croix de Jésus, par la puissance d'amour qui en émane. Alors l'évêque et le prêtre, à la suite de Saint-Mémy, ne sont pas Jésus lui-même, mais ils en sont les intendants, les ministres. Recourir au ministère sacerdotal, c'est donc recourir à Jésus qui nous sanctifie, Jésus qui nous guérit, Jésus qui nous pardonne et nous relève. Tous, moi le premier, nous avons besoin du pardon de nos péchés pour avancer et pour grandir dans la foi. Tous, moi le premier, nous portons des blessures dans l'ordre de la charité fraternelle, dans la vie familiale, dans les relations humaines. C'est normal, et tous fait de la même façon. Que c'est difficile de nous aimer les uns les autres, de se respecter vraiment, de se parler avec charité, même s'il faut dire une vérité un petit peu dure à avaler. Le pasteur que fut Saint-Mémy ici nous laisse ce trésor de la miséricorde, de la bonté de Dieu, dont nous devons d'abord vivre pour pouvoir en témoigner. Enfin, l'apôtre saint Paul le dit avec force dans sa lettre aux Corinthiens, nous l'avons entendu, en parlant de l'évangélisation. Non seulement c'est quelque chose qui s'impose à lui, mais encore, je le cite, « Je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. » Nous ne sommes que des serviteurs, les uns et les autres. Bien sûr, nous faisons des choses pour l'Église, pour la paroisse, pour le diocèse, mais ce n'est pas une activité humaine, temporaire, comme toutes les autres. Nous n'avons pas d'abord à organiser plein de choses, à planifier, mais à disposer nos cœurs pour accueillir la grâce du Seigneur, afin que ce soit toujours lui, Jésus, qui parle, qui agisse et qui pardonne à travers nous. Nous n'avons aucun mérite, ni moi, ni vous, mais nous avons été appelés, chacun, pour la mission qui est la nôtre. Nous ne sommes pas propriétaires, ni détenteurs à jamais. Tout cela peut changer selon le bon plan de Dieu. L'essentiel, c'est de rester dans la main de Dieu et de ne surtout pas prendre sa place. Demandons donc au bon pasteur Jésus. Demandons donc au bon pasteur Ardennes, Saint-Mémy, son intercession et sa protection. Accueillons le Saint-Esprit qui vient changer nos cœurs et nous renouveler dans notre élan missionnaire. Prions les uns pour les autres, sous le regard de Saint-Méry. Prions pour les prêtres qui servent leurs frères et sœurs pour les conduire à Jésus, sous l'autorité de leur évêque. Merci aussi de prier pour votre évêque, successeur de Saint-Méry, sans oublier encore Monseigneur Gilbert Louis, mon prédécesseur, évêque émérite de Châlons. Merci donc de prier pour votre évêque, afin qu'il réponde toujours avec joie aux appels du Seigneur et soit lui aussi bien au-delà de ses limites personnelles, et je les connais.